Avant de gagner la porte Tourville, en fait, hein, au pied du remblai, donc de quasiment 20 mètres de remblai voulu, hein, donc dès 1943, peut-être pas ces 20 mètres-là, mais l'idée de cette tabula rasa dont je vous ai parlé, c'est qu'ici, si vous voulez, il faut faire un très fort effort d'imagination, hein, puisque cette rue Louis Pasteur arrivait tout en bas, on va le voir. Hein, et pas tout à fait... Pas exactement dans l'axe de celle-ci. En plus, on va le vérifier tout à l'heure avec un mur qui existe toujours et qui est aussi sur une photographie ancienne. Hein, voyez. Mais en bas, ici, il y avait ce qu'on appelait la rue de la Voûte. On descendait encore, vous voyez. C'est-à-dire que tout au fond, là-bas, où il y a l'immeuble rose, il y avait le bagne, si vous voulez. Ouais. Et donc, il faut entrer là, on va en parler, dans l'imaginaire de Pierre Macorlan. Et là, il y avait donc ce quartier dit de Keravel, hein, qui avait été construit dès 1682. En fait, c'est un architecte qui s'appelait Bedoa. Hein. 1682, c'est l'époque Vauban. Hein. Le grand rempart, si vous voulez, qui enserre Brest, est achevé en 1692, hein, sur plan Vauban. Et en 1682, alors l'arsenal, c'est le premier arsenal de France, hein, hein, voulu par Louis XIV. Je vous rappelle qu'en 1681, Louis XIV réunit Brest et Recouvrance à des fins de faire, justement, de justifier de ce très grand arsenal. Et donc, en 1682, ben, Brest, l'habitat brestois n'est pas à la hauteur, si vous voulez, de l'arsenal. Et donc, cet architecte Bedoa va céder cet entier terrain, là, si vous voulez. Et l'idée, c'est d'en faire un quartier, je dirais pas de premier plan, mais un quartier d'habitation assez remarquable. Ah, deux siècles plus tard, ce sera, le quartier peut-être le plus sale de Brest, ou un des plus sales de Brest.
Non, enfin, hein, avec une hardiesse qui n'était pas contrôlable.
Ah ben...
voilà. Exactement, mais vous voyez comment ça peut être. Mais alors, c'est quand même bien, parce que c'était des ruelles, si vous voulez. Alors, il y avait les ruelles de Keravel, mais les premières, elles étaient à peu près honorables. Et il y en avait sept, je crois.
Hein. Oui, complètement.
Alors, mais la septième, là-bas, dans le fond, c'était vraiment, il y avait des cas, comment on peut dire, sociaux.
Oui. Alors, si vous voulez... Vous avez à l'emplacement de la rue Michelet, à peu près, hein, à peu près, aujourd'hui, là, vous voyez. Vous aviez la rue de Keravel, et là, ensuite, vous aviez les Venelles. Hein. Et il y avait une rue qui s'appelait la rue de la Filerie. C'est pour ça que je vous ai mis le plan de 1777 à la fin, hein, vous voyez. Donc, le plan aquarellé, là, tout à fait à la fin. Vous aviez la rue de la Filerie qui vous amenait au mur du bagne. Alors, c'est tout l'imaginaire. Alors, Macorlan, comme vous savez, a écrit ce texte extraordinaire sur Brest, hein. Ouais. On va le voir tout à l'heure, qui venait à la fois au Grand Café et surtout à la Brasserie de la Marine, ou dit Brasserie de la Comédie. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi à la fin de notre parcours. Mais en tout cas, Macorlan, si vous voulez, dans ses deux romans, à la fois Langue de Miséricorde et Les Clients du Bon Chien Jaune, hein, il positionne, si vous voulez, toute l'histoire dans ce Brest du 18e, essentiellement entre cet espace-là et le château. Parce que dans Langue de Miséricorde, si vous voulez, il positionne le commerce du père de Petit Morgan, qui était Schiblender, à l'angle de la rue du Couédic et de la rue de Tiable. Vous voyez ? Donc voilà, là, il positionne dans son imaginaire le commerce de son père, hein, du père de Petit Morgan. Et toute l'histoire va se dérouler pratiquement entre la rue de Tiable et le bagne, pour se terminer... en passant par l'actuel square Larminier, comme vous savez, place du Château, où finalement celui qu'il admirait est le plus grand des bandits est pendu au écourt en place du Château. Hein, qui devient, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sera un autre sujet qui deviendra la place de la guillotine à la Révolution. Hein, bon, c'est un autre sujet, ce sera dans 2-3 mois ça. Voilà. Donc ce quartier de Keravel, hein, vous imaginez avec la rue de la Voûte qui descendait, et ensuite... La rue, la grande rue, donc, avant rue Royale et rue Louis Pasteur, descendait jusqu'au bassin Tourville. Alors, c'est ça que l'on va aller voir maintenant. Et on va voir qu'il y a des traces, quand même, qui nous le disent. Hein, en particulier, vous allez descendre le grand escalier, hein, les grands escaliers, qui permettaient de relier ce qu'on appelait le quartier des Sept Saints, ici, le quartier emblématique de Brest, au bassin Tourville et à l'arsenal. Alors, le quartier des Sept Saints, si vous voulez... Bon, là, je vous demande encore de faire un saut. Enfin, il faut de l'imagination, mais c'est en même temps, c'est rigoureux, c'est de l'histoire. En 1000, 1100, tous les Brestois habitaient dans la ville close qui était aujourd'hui le château. Petit à petit, la ville se développe à l'extérieur du château, très modérément. Hein, au Moyen-Âge, on va dire pour faire simple, en 1000, il y a 1000 habitants. En 1500, même à l'assassinat d'Henri IV en 1610, il y a 1500 habitants, avec les familles, etc. Brest n'est qu'une toute petite ville, si vous voulez. On a le quartier des Sept Saints, s'est développé autour de son église qui date de 1500-1502. Pourquoi les Sept Saints? Alors là, il y a différentes interprétations. Il y en a une qui vous dit que c'est une dame qui avait donné naissance à sept petits-enfants en une fois, en fait, et le mari qui était forgeron, fort mécontent, la met dans une barque et on ne va pas nourrir sept bouches de plus. Bon, c'est assez fantasmagorique. Ce qui est beaucoup plus plausible, c'est sept saints, ce sont les sept saints bretons. Hein. Je vais en parler tout de suite. Les sept saints bretons, c'est l'actuel, hein, ça a été encore remis au goût du jour avec le Trobreiz. Hein, il s'agit de faire le tour de Bretagne, qu'opère d'ailleurs Anne de Bretagne. Hein, donc, quand son deuxième mari, Louis XII, hein, est malade, hein, elle opère ce tour de Bretagne où elle reçoit un accueil extraordinaire. Je vous rappelle que il faut faire le tour des sept cathédrales, Saint-Paterne à Vannes. Ensuite, on a donc Saint-Corentin à Quimper, Saint-Paul, Paul Aurélien, le premier à avoir débarqué au 7e siècle à Saint-Paul. Ensuite, Tréguier, Saint-Hugues-du-Hal, Saint-Brieuc, hein, et Saint-Malo. Et on finit à Dol de Bretagne avec Saint-Samson, hein, vous voyez, ou Saint-Samson, comme vous voulez. En tout cas, voilà. Donc, c'est cette église de sept saints, la plausibilité de l'appellation, elle est plus là. Donc, ce quartier, il est emblématique. Parce que là, si vous voulez, vous aviez donc ce quartier, la rue Neuve des Sept Saints, hein, et il y avait ces grands escaliers que l'on va emprunter qui permettaient d'accéder directement à l'arsenal. Et la première partie de cet escalier qui date du début du XVIIIe siècle, elle est dans son jus toujours. La deuxième partie a été réorientée, on va vous expliquer pourquoi. Mais quand on regarde de très près, hein, je l'ai regardé, je n'avais pas vu ce détail, j'ai regardé il y a 2-3 jours, dans une gravure d'Ozanne, hein, Pierre et Nicolas Ozanne, ce sont des graveurs extraordinaires du XVIIIe siècle, ingénieurs de formation, qui vont devenir les précepteurs de Louis XVI, du jeune Louis XVI, voyez, pour les affaires de marine. Hein. Et quand on regarde la gravure, je ne vous l'ai pas mis, hein, embarquement au port de Brest, on voit que le mur qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui est le départ de l'ancienne rue Royale, Grand Rue et rue du Pasteur, il est en construction. Il y a 3 maçons qui construisent ce mur. Oui, c'est maintenant. Ouais, on va descendre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'ai un peu envoyé quelques informations. J'espère qu'il n'y en a pas trop.
Ouais, je voudrais vous dire, pour Marc Orland, par exemple, quand j'ai lu la première fois le fameux Angle de Miséricorde, j'étais à l'école, là, un peu plus là, à 100 mètres là. Et donc je partais toujours dans la rue qui descendait, etc. Et j'avais l'impression de vivre, si vous voulez. Je comparais les termes qu'il envoyait pour désigner les rues, je vivais ça, quoi. Et je l'ai mis de côté, et après la Libération, je l'ai repris, parce que vous savez, les romans, on peut les lire plusieurs fois, et on pénètre davantage dans telle ou telle réflexion et analyse, c'est ça qui est intéressant. Et Marc Orland, en dehors de cette histoire du 18e, là, il a des termes formidables pour donner son admiration sur Brest, quoi. C'est formidable. Si vous avez quelques problèmes pour la ville de Brest, vous lisez Marc Orland et vous êtes remis en état d'accepter toutes sortes de...